Cette semaine, Daniel Habert était en Chine à l'occasion d'un colloque sur les relations entre Israël et la Chine. Et on en parle, enfin Blaise van der Linden et Daniel Habert parlent de ce colloque notamment.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale. Daniel Habert, nous n'allons pas trahir un secret. Vous êtes de retour de Chine. Vous avez participé à un séminaire sur les relations entre Israël et la Chine organisé par le parti au pouvoir. Alors, pour commencer, quelle est la position géopolitique d'Israël vue de Chine?
Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, au fond, la Chine faisait partie des pays qui condamnaient Israël pour ses bombardements, qui demandaient un cessez-le-feu immédiat. Au fond, les Israéliens étaient un peu déçus parce qu'on avait établi avec eux une plutôt bonne relation. Mais je voulais savoir un petit peu quel était leur sentiment. Ce que j'ai trouvé, c'est d'abord une très mauvaise connaissance au fond du Moyen-Orient en général. De ces instituts de recherche, de tous ces chercheurs chinois. Parmi mes interlocuteurs, beaucoup venaient d'instituts de recherche sur le Moyen-Orient, donc parlaient plus arabe qu'hébreu. Et on a tenté un petit peu de comprendre la position chinoise. Alors, je voudrais la rappeler d'abord sur le contexte, hein. N'oubliez pas que la Chine est confrontée par les États-Unis, elle se sent agressée, et donc Israël étant de plus en plus proche, notamment à cause de la guerre de Gaza des États-Unis, elle est un peu fait partie un peu de ceux qui agressent la Chine. Ça, c'est le premier point. La guerre en Ukraine a agrandi ce fossé. Et évidemment, ce qui se passe au Moyen-Orient a montré à quel point les deux pays, Israël et les États-Unis, étaient proches, ce dont les Chinois n'ont jamais douté. Et donc, leur problème, les Chinois, c'est l'Amérique avant tout, hein. Le contexte à plus long terme, c'est que les Chinois aiment bien Israël, ils aiment bien au fond les Juifs, et pour eux, Israël, c'est le pays des Juifs, et ils ont une grande admiration pour ce peuple qui a survécu à 2000 ans, qui a recréé son pays, qui a surtout 1000 ans d'histoire positive avec la Chine. Du temps des routes de la soie, les marchands juifs qui venaient en Chine, au moment de la révolution russe, beaucoup de juifs russes se sont installés au nord de la Chine pour échapper à l'Union aux communistes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Shanghai, il y a eu 30 000 juifs allemands et autrichiens qui ont été sauvés par les Chinois qui en sont très fiers. Donc il y a quand même un contexte extrêmement positif. Mais alors qu'est-ce que ça change pour la guerre de Gaza? D'abord, la chose suivante, c'est que la Chine, au fond, a été prise par surprise. Et on voit bien que le ministère des Affaires étrangères, qui est chinois, qui a été déstabilisé. Souvenez-vous que le ministre a disparu du jour au lendemain. On l'a remplacé par le membre du Parti communiste qui s'occupe des relations internationales, qui s'appelle Wang Yi, qui est un vieux routier. Donc, ils ont sorti des communiqués assez banaux, hein, assez tièdes. Et en fait, ils votent contre Israël à l'ONU, mais ils sont en bonne compagnie, ils sont avec la France, ils sont avec la Belgique, ils sont avec beaucoup d'autres pays, donc ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Et en relation bilatérale, les relations diplomatiques sont excellentes, les ambassadeurs sont toujours en poste, ils se parlent, l'ambassadeur d'Israël est très très souvent au parti pour expliquer la position d'Israël, il est écouté avec respect. Donc si vous voulez, c'est une opposition qui n'est pas si négative que ça, sauf que il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques des Juifs. Ce que les Juifs qui suivent ça, les Israéliens qui suivent ça en Israël appellent une sorte de vague d'antisémitisme sans juifs, parce qu'ils connaissent pas. Et c'est plutôt à propos, au fond, de la puissance juive, de l'influence juive sur les États-Unis, l'influence juive sur la finance mondiale, donc des choses assez traditionnelles. Et donc, voilà un petit peu le tableau qui n'était pas, de leur point de vue, très négatif.
Justement, Daniel Habert, quel est on observe une montée de l'antisémitisme, une recrudescence de l'antisémitisme en Europe, aux États-Unis. Quelle est la situation en termes d'antisémitisme en Chine?
Bon, vous savez, l'antisémitisme sans juifs, ça existe. Ce sont plutôt des fantasmes. Et au fond, les côtés positifs que les Chinois ont envers les Juifs, c'est-à-dire l'admiration pour l'intelligence, le nombre de prix Nobel, la position éminente de beaucoup de Juifs dans le monde par rapport à leur petit nombre, ça se retourne un petit peu de l'autre côté sur cette influence un peu excessive. Mais c'est pas plus que ça. Non, ce qui m'a frappé, parce que j'ai posé beaucoup de questions, c'est de voir à quel point les Palestiniens et je dirais les musulmans en général sont présents en Chine. Il y a 57 pays musulmans qui ont des diplomaties en Chine, les ambassadeurs font des cocktails, font des conférences, etc. Il y a beaucoup de musulmans à Pékin, à Shanghai, pour les affaires, pour la politique, et il y a un courant de personnel entre beaucoup beaucoup de musulmans et les Chinois, et les Chinois ils ont une bonne vision du monde musulman, d'autant qu'ils ont des musulmans chez eux, 30-40 millions, et pas seulement les Ouïghours mais aussi des Chinois qui sont devenus musulmans au cours des siècles. Donc il y a des mosquées à Pékin, donc ils sont dans un milieu assez familier. Par contre, les Israéliens les connaissent beaucoup moins, hein, c'est quelques hommes d'affaires qui sont quand même très concentrés sur leurs affaires, c'est l'ambassade. Et donc il y a un manque de relations personnelles, et c'est ça qui joue à notre détriment. Et du coup, si vous voulez, c'est le narratif palestinien qui est le plus entendu. Et pour les Chinois, ce qu'ils retiennent des Palestiniens, c'est que les Palestiniens sont victimes d'une injustice, qu'ils sont occupés. Et qu'ils ont donc le droit de se révolter. Vous savez que depuis 49, Mao essaie de prendre le leadership de tous les peuples qui ont été opprimés. Et donc tout ce tiers-monde qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est les amis des Chinois. Et donc parmi ce tiers-monde et ce Sud global, une grande partie, plus d'un tiers, sont des États musulmans. Donc le narratif musulman domine dans la pensée chinoise. Ce que j'ai pu mettre en avant, c'est de dire que la solution à deux États a été recherchée assez loin par les Israéliens jusqu'en l'an 2000 et même 2007, où on a failli d'ailleurs trouver une solution, et que en réalité, ceux qui refusent la solution à deux États, ce sont les Palestiniens. Une partie est prête à signer un État à moitié, mais uniquement pour une raison, c'est pour préparer la suite. Et je rappelais que les slogans qui ont fleuri dans les manifestations depuis le 7 octobre dans le monde entier, et en particulier dans les pays musulmans, c'était de la rivière à la mer, libérer la Palestine, c'est-à-dire il faut de la destruction d'Israël. Et là, ils ont été étonnés. Et ils ont pris bonne note. Et donc voilà un petit peu un petit peu le travail que j'ai fait de promotion de la position israélienne.
Pour finir, Daniel Haber, ça fait bientôt 5 mois qu'on est en guerre. La Chine a-t-elle un rôle à jouer? A-t-elle une position?
Je pense que la Chine, elle a besoin, elle est très intéressée par le Moyen-Orient, fournisseur de pétrole, et puis aussi elle y vend énormément de choses. Elle a pris des positions politiques très importantes, elle a signé des accords stratégiques avec tous les pays. Elle est amie de tout le monde, y compris d'Israël, et donc elle a besoin de paix et de stabilité. Donc la guerre, ça lui plaît pas, et c'est pour ça qu'elle vote pour un cessez-le-feu. Elle dit arrêtez la guerre, la paix c'est mieux que la guerre. Oui, on sait bien. Et pour les Chinois qui ont une vision économique du monde, faisant des affaires, c'est ça qui compte, et d'ailleurs c'est très bien. Ils ont envie que la guerre se termine, ils n'ont aucun rôle à jouer dans les négociations actuelles, parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, d'enjeu direct. Par contre, quand on viendra à des solutions à long terme, y compris des solutions régionales qui engloberaient la question palestinienne, il est tout à fait, et la question iranienne, qu'il faut jamais oublier, parce qu'elle n'est pas du tout la même chose que la question palestinienne. Les Iraniens utilisent la question palestinienne à leur profit. Et il est probable que la position de la Chine, qui est amie de tout le monde, sera utile. Sera utile. Donc, il se prépare plutôt pour les négociations d'après-guerre. Et je pense qu'ils joueront un rôle positif, ou en tout cas, ils essaieront de le faire au moment de l'après-guerre. Et donc, Israël, pour l'instant, la position officielle israélienne est plutôt d'être patiente, d'accepter les positions chinoises qui ne sont pas très favorables à Israël, en se disant qu'à long terme, l'amitié est toujours là et reviendra.
En 1 minute, Daniel Haber, une petite question bonus, si j'ose le dire. Comment vit la Chine la situation en mer Rouge?
Vous savez, ils sont comme les Américains, comme c'est le business qui domine. Hein. Les Américains sont toujours intervenus dans les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand on a mis en cause la liberté de navigation, c'est-à-dire la liberté de faire du business. Et c'est la même chose pour les Chinois. Les Chinois vendent énormément au Moyen-Orient, vendent énormément en Europe, et beaucoup de bateaux de containers passent par le canal de Suez, donc par la mer Rouge, et donc ils sont très inquiets de ce qui se passe en mer Rouge. Et donc, au fond, c'est un des leviers que peut utiliser Israël et même les Américains pour mettre pour mettre la Chine au fond dans le même camp, pour dire aux Houthis, c'est-à-dire derrière eux, aux Iraniens, arrêtez de mettre ce passage essentiel au commerce mondial à feu et à sang, parce que c'est l'intérêt de personne et vous aurez tout le monde contre vous. Donc là, la Chine, elle s'inquiète. La plus grande compagnie de navigation du monde, qui s'appelle Costco, et donc oui, elle est très inquiète. Elle suit et c'est une des raisons pour lesquelles elle suit ces histoires du Moyen-Orient de très près.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.